Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Marcelin Plenet, qui publie deux livres, Chronique vénitienne chez Gallimard dans la collection L'Infini, et un Cézanne en folio essai. Ainsi suis-je à Venise, sans autre explication. Ces derniers temps, Marcelin Plenet, dans vos livres, je pense au Savoir-vivre, publié il y a quelques années, et à cette chronique vénitienne que vous faites paraître aujourd'hui, il est question du corps.
Oui, absolument. Il est question du corps parce que le corps se rappelle à moi, ne voudrais-je pas le savoir, il se rappelle à moi. En plus, parce qu'il y a entre, pour moi, il y a entre l'écriture et le corps une adéquation presque totale. C'est-à-dire que ce qui arrive au corps arrive aussi à l'écriture. Il faut essayer que ce qui arrive au corps n'arrive pas forcément à l'écriture.
Mais qu'est-ce qui devance l'autre? C'est l'écriture ou...
C'est l'écriture, toujours, oui.
L'écriture et la préfiguration?
Non, ce n'est pas la préfiguration, c'est le fil rouge qui traverse le corps. C'est-à-dire, j'écris, bien sûr, avec mon corps, mais mon corps est dépendant de ce que j'écris, complètement. Ce qui fait que lorsque le corps a des accidents, je n'écris plus, ou je suspends l'écriture à un moment donné. Par exemple, vous parliez du savoir-vivre. L'écriture m'a, à ce moment-là, sauvé de toute dérédiction à l'hôpital. J'ai immédiatement commencé à réécrire. C'était pour un cancer de la prostate, et dès que je me suis réveillé, j'ai commencé à écrire le livre en question. Et là, c'est le livre que je publie cette fois-ci, Chronique vénitienne au singulier, est en effet entièrement écrit à Venise, où je vois très peu de gens, où je suis très très isolé d'une certaine façon, et où je suis parfaitement en adéquation avec moi-même.
Pourquoi Venise? Alors, une question à la Christine Angot.
Venise, parce que d'abord, c'est une ville très singulière. C'est une ville d'eau, comme vous savez, qui a cette particularité que le chemin, ce qui est valable dans tout le reste du monde, le chemin le plus court, c'est la ligne d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Or, à Venise, le chemin le plus court d'un point à un autre, ça n'est jamais la ligne droite. Si vous prenez la ligne droite, vous êtes sûr que vous tombez sur un canal ou que vous ne pouvez pas passer. Donc vous êtes constamment en train de faire des détours et d'être dans la surprise de ce que le détour vous réserve. C'est ainsi que j'ai découvert, en promenant à travers Venise, une des plus grandes bibliothèques de librairies d'occasion qui existe à Venise et qui se trouve au pied d'un palais. Il y a 7 ou 8 salles avec un nombre de livres absolument considérable. Et si vous entrez dans ces salles, vous aboutissez, comme c'est au rez-de-chaussée, vous aboutissez sur un canal. La librairie en question est pleine de chats, à cause des rats, je suppose, et le canal ne monte jamais jusqu'au livre.
Est-ce que c'est un hasard si vous vous êtes arrêté à Venise, qui est une ville qui est hantée aussi, on le sait bien, par quelqu'un qui vous est très proche, Philippe Solers?
Oui, mais j'étais à Venise avant Solers. Mon premier voyage à Venise doit dater de la fin des années 50. Le premier voyage à Venise de Solers doit dater du début des années 60, il me semble. Non, ce n'est pas un hasard du tout. Simplement, c'est le fait qu'on peut en parler ensemble parce qu'il a en effet un rapport à Venise qui n'est pas très étranger au mien. Il y a autre chose qui m'attache beaucoup à Venise depuis toujours, c'est que dès que je suis arrivé à Venise dans la fin des années 50, j'ai croisé Pande, qui, comme vous savez, habitait Venise, et qui avait cette particularité, c'était à la fin de sa vie, de vivre avec une femme qui était une musicienne, avec laquelle il avait d'ailleurs découvert Vivaldi, relancé Vivaldi, qui est un grand musicien, et qui mangeait avec elle dans une trattoria où moi-même je vivais et dormais. Donc je le rencontrais, je le croisais, je le voyais le soir. Je ne lui ai jamais adressé la parole, ça me semblait tout à fait inutile, mais je l'ai croisé le soir. J'ai même assisté à l'enterrement de Stravinsky à Venise. À la fin des années 60, je crois, au début des années 70, Stravinsky était mort et on l'enterrait à San Giovanni Paolo. J'ai assisté à la messe
orthodoxe,
absolument, qui était dirigée. Il y avait un orchestre qui était dirigé par Robert Kraft. Et j'ai assisté à l'enterrement. Il y avait très peu de monde. Il y avait Ezra Pound et sa compagne au pied d'un pilier, et autrement, il y avait une vingtaine de personnes. C'est tout.
Dans le livre Marcelin Plenet, vous dites que vous n'avez pas besoin de société.
Non.
Mais à Venise, on rencontre quand même beaucoup de gens, quelquefois même les gens qui habitent votre rue à Paris.
Pas vraiment, c'est très rare. C'est très très rare. Ça fait donc fin des années 50, nous sommes en 2010, ça fait presque 60 ans que je vais régulièrement à Venise. En 60 ans, j'ai dû recroiser 3 personnes que je connaissais, avec qui j'étais forcé d'adresser la parole.
Alors nous parlions des mésaventures du corps.
Oui.
Qui sont arrivés et que vous racontez aussi dans Chronique vénitienne, où pourtant vous parlez de ce que vous appelez, notion peut-être un peu nietzschéenne, la santé essentielle.
Oui, Venise fait partie de cette santé essentielle. C'est-à-dire qu'à Venise, je suis en effet dans cette santé, dans cette santé-là. Tous les inconvénients que nous vivons ordinairement sont le propre de la société. Dès que vous vous mettez hors de la société, vous êtes dans une santé qui n'a pas d'égal et dans une jouissance et un plaisir qui est sans mesure.
Vous racontez que dès l'âge de 5 ans, justement, pour obtenir cette santé essentielle, vous aviez une méthode qui consistait à apprendre par cœur des poèmes, et pas n'importe lesquels, du Rimbaud.
Absolument. C'est pas à 5 ans, c'est peut-être autour de 15 ans, où j'apprenais chaque soir par cœur un poème de Rimbaud que je me récitais le lendemain, et si je ne m'en souvenais pas le lendemain, je recommençais à l'apprendre par cœur. C'est ainsi que j'ai appris pratiquement tous les poèmes de Rimbaud par cœur, que j'ai oublié depuis d'ailleurs, mais dont je me souviens de certains.
Et ça, c'est la santé essentielle.
Oui, absolument. La santé essentielle, c'est au fond un type de rapport avec la poésie, un type de rapport du par cœur avec la poésie. Et avec la prose aussi, si c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile.
Ces poèmes, vous les rappelez encore ?
Certains, oui.
Mais aujourd'hui, vous n'en apprenez plus ?
Si, ça m'arrive.
Dante, par exemple ?
Dante, par cœur, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que d'abord, c'est en traduction, que j'ai un rapport avec l'italien assez difficile.
Oui, vous avez compliqué. Une excellente traduction de Jacqueline Risset, que vous connaissez bien.
Oui, mais le par cœur de la traduction est toujours très difficile. Le par cœur de la langue même est, lui, très facile.
Alors, dans ce nouveau livre, Chronique vénitienne, je remarque qu'une indication générique est donnée sur la couverture, qui peut paraître étrange. C'est roman.
Oui, en effet. Mais vous savez, Solers a publié ses mémoires qu'il a appelées un vrai roman. Donc à partir du moment où on entre d'une certaine façon dans son existence, l'existence devient romanesque inévitablement. C'est-à-dire on n'est plus dans le réalisme socialiste, mais on est dans un réalisme de fiction qui est plus vrai que le vrai.
Et là, vous vous placez d'ailleurs... sous la protection des saints.
Oui, absolument. Il y a à Venise une place qui s'appelle Campo Santo, qui est donc la place de tous les saints. Et en effet, il me semble que lorsque je me promène à Venise, mes saints préférés m'accompagnent. C'est-à-dire aussi que ce soit Pound, que ce soit Dante, que ce soit Nietzsche, etc. Il me semble que je suis accompagné parce que j'écris beaucoup en marchant. Or, je marche beaucoup à Venise. Or, bien entendu, en marchant, je pense aux auteurs qui me sont le plus chers et ils m'accompagnent.
Mais vous n'avez pas l'impression de devenir vous-même un peu sain ?
Pas vraiment.
Pas encore ?
Mais sain peut-être. Sain, c'est-à-dire, si vous voulez, je dirais plus volontiers Dieu que sain. C'est-à-dire, je suis accompagné par des saints et je suis en quelque sorte le dieu de cette compagnie.
Mais vous dites que l'esprit n'agit que sur les saints.
Oui, absolument. Le Saint-Esprit, comme vous savez, n'agit que sur les saints, oui. Et notamment sur la Vierge Marie. Il y a un tableau de Titien qui est à Venise et qui est très superbe. C'est une annonciation de la Vierge où l'on voit un saint absolument immense en face d'une Vierge toute petite et une sorte de révolution des anges dans le haut du ciel. C'est-à-dire c'est une effraction et c'est une révolution. Ouais.
Mais je remarque tout de même que dans une première personne du pluriel qui oui. vous englobe, vous dites « nous avons l'habitude d'aimer et nous avons le génie, la formule, la sainteté ».
Oui. Le pluriel là est tout simplement, si vous voulez, très immodeste, c'est un pluriel de majesté. On peut dire que c'est un pluriel de majesté, d'une certaine façon. Tout ça est très, très immodeste, hein, c'est pourquoi ça peut s'appeler roman.
Si c'est un pluriel de majesté, ça veut dire que le saint, c'est vous.
Oui, oui, si on veut, oui.
Et c'est comme une figure sainte à Venise qui vous accompagne, Marcelin Plenet. Vous voyez la sainteté de l'univers
oui.
autour de votre fenêtre.
Oui. Hein,
c'est pas compliqué, il vous suffit d'ouvrir les volets.
Oui.
Et la sainteté se déploie devant vous.
C'est un très grand appartement qu'on me prête, dans lequel il y a une quinzaine de fenêtres. C'est très grand, ça fait presque 200 mètres carrés. Une quinzaine de fenêtres, et en effet, dès que j'ouvre la fenêtre, la lumière rentre, le soleil rentre, et c'est le propre de la sainteté.
Et vous qui fuyez la société, vous avez au moins un interlocuteur à Venise, c'est Dieu. Dieu est là, présent dans toutes les églises de Venise. Tout ne parle que de Dieu.
Oui, c'est une façon de présenter les choses. C'est-à-dire, tout ne parle que de la création. C'est une façon de présenter les choses. C'est une façon de dire que tout ne parle que de la création. Dès que vous êtes à Venise et dès que vous êtes en vous-même, et surtout pas à Venise, parce que bien sûr, c'est un des rares lieux où je sais être tout à fait seul et tranquille, ce que je vois me parle comme de la création, voilà, absolument. C'est ça, vous savez, c'est un grand appartement qui est sur deux étages et qui est au quatrième. Et la fenêtre de la chambre donne sur un jardin, ce qui est très rare à Venise. Et le matin, je suis réveillé par les oiseaux. Donc Dieu me parle, voilà. Dieu me parle le langage des oiseaux.
Et Dieu vous parle. Bon. Mais en même temps, vous dites que cette évidence-là, personne ne veut l'entendre.
Oui.
Vous criez dans le désert quand vous parlez de ça.
Je crois que, si vous voulez, je crois qu'un auteur, ce qui n'est pas conscient de crier dans le désert, se trompe lourdement. Même si ces tirages sont considérables, les miens ne sont pas considérables, même si ces tirages sont considérables, il n'est jamais sûr, en effet, d'être entendu pour ce qu'il dit. Vous savez que j'ai publié un nombre de livres, peut-être une trentaine, il y a la liste là, qui me convainc que j'aurais soufflé dans un violon, ce serait la même chose pour beaucoup de mes compatriotes.
Ouais, mais c'est plutôt bon signe, non ?
Oui, oui, absolument.
Alors, Dieu vous parle,
oui.
Et les saints se parlent entre
oui.
eux,
oui.
Mais à votre insu, vous ne savez pas ce qu'ils disent, vous ne pouvez pas les entendre.
Mais si, je les entends.
Parce que les saints ont l'habitude de parler silencieusement, non ?
Oui, mais même silencieusement. Silencieusement, c'est tout simplement dans ma tête que ça se passe. Donc ça se passe silencieusement, alors que je me promène et ils me parlent. Les saints en question, ce sont Hölderlin, Rimbaud, Nietzsche et quelques autres, Dante et quelques autres.
C'est qu'on entend quand on a des oreilles pour entendre.
Oui, absolument.
Et l'ouïe un peu fine.
Et voilà, c'est ça.
Bon. C'est ce qu'on appelle une sainte conversation.
Absolument. Oui, et il y en a plein à Venise, comme vous savez. La sainte conversation, qu'est-ce que c'est ? Il y a énormément de tableaux, notamment de Bellini, qui sont de saintes conversations, des conversations dites sacrées. C'est-à-dire, ce sont autour de la Vierge, des saints qui s'entretiennent silencieusement entre eux et qui, dont le regard ne va jamais dans la même direction. D'ailleurs, ils se croisent tous. Jamais, vous ne trouvez jamais un saint qui regarde dans la même direction qu'un autre dans ces conversations sacrées.
Et vous avez d'un peintre à l'autre, quel que soit le peintre. Hein? Quel que soit
absolument.
Le
peintre. Absolument. Ça, à mon avis, c'est même une tradition de la peinture italienne. Jamais, que ce soit Bellini ou Titien, jamais ils ne regardent, ou Giorgione, mais il n'y a pas de sacrée conversation dans Giorgione, ils ne regardent jamais dans la même direction. Donc, ils ne regardent jamais à l'extérieur. Ils regardent dans une direction différente, ils ne regardent jamais à l'extérieur. Je pense à une conversation de Bellini qui se trouve à San Zaccaria, où le seul qui regarde vers l'extérieur, c'est l'ange qui est au bas du tableau. Qui regarde celui qui regarde le tableau. Les autres regardent dans des directions différentes avec leurs attributs dans la main. C'est-à-dire, pour saint Augustin, c'est un livre, comme vous savez. Pour une autre, c'est les yeux qu'elle tient dans sa main, etc.
Comment vous expliquez ça alors que ces personnages rassemblés ne se regardent pas ?
Ils ne se regardent pas, mais ils se voient sans se voir. Ils se voient sans se voir, c'est-à-dire ils sont ensemble, ils ne se regardent pas, mais ils sont ensemble. Ils forment un ensemble.
Ils ne se regardent pas, mais ils s'écoutent.
Oui, absolument. Non seulement ils ne se regardent pas, ils s'écoutent, mais ils s'entendent. C'est qui est sûr. Vous avez un autre Bellini qui se trouve dans une autre petite église, qui est aussi une conversation sacrée. Cette fois-ci, il n'y a pas la Vierge. Il y a un Saint-Christophe avec un Christ sur les épaules. Et là aussi, ils ne se regardent pas, mais très évidemment, ils forment un ensemble.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de sainte conversation chez Giorgione. Il me semble que dans un tableau comme La Tempête, que vous connaissez bien, parce que vous avez écrit un livre sur La Tempête, les personnages ne se regardent pas non plus.
Non plus, absolument. Ah si, l'homme regarde la femme. L'homme regarde la femme qui allaite l'enfant, mais elle regarde à l'extérieur celui qui regarde le tableau. Donc Giorgione est de toute façon beaucoup plus sensuel et érotique que quelque autre peintre que ce soit vénitien. Donc c'est une mise en scène du, si l'on veut, de la scène primitive, c'est-à-dire celui qui regarde le tableau est regardé par la femme qui est elle-même regardée par un homme qui est à l'intérieur du tableau. Donc il y a une circulation intérieure qui existe, oui.
La peinture Marcelin Plenet n'est pas absente de ce nouveau livre Chronique vénitienne que vous publiez dans la collection de Philippe Solers, L'Infini chez Gallimard. Elle est présente, on peut dire, dans toute votre œuvre, en tout cas. Mais là, le sujet du livre, c'est tout de même Venise, surtout. Hein. Venise, le lieu et la formule, comme vous dites.
Voilà. C'est Venise et c'est moi à Venise. Le sujet du livre, c'est vraiment moi à Venise. Plus que Venise, c'est une sorte d'identité entre Venise et celui qui écrit sur Venise, qui y vit.
Et qui écrit... avec ses lectures, sa culture en général.
Oui, bien sûr.
Et parmi ses lectures, justement, puisqu'on parle du lieu et de la formule, il y a évidemment Arthur Rimbaud.
Oui.
Celui que vous appreniez par cœur dès l'âge de 15 ans. Le livre s'ouvre presque sur une méditation sur Rimbaud. Et puisqu'on parlait de sainte conversation, justement, sur la sainte femme qu'était sa sœur Isabelle.
Oui.
Car Isabelle, pour vous, mène à Rimbaud. On ne peut pas faire l'impasse.
On ne peut pas faire l'impasse sur Isabelle parce que Rimbaud lui-même ne fait pas l'impasse sur Isabelle. Vous savez que lorsque sa sœur, c'est pas Isabelle, c'est l'autre, lorsque sa sœur meurt, il est tellement bouleversé qu'il se fait raser la tête. C'est tout à fait... Et les rapports entre les frères, et les sœurs et le frère sont... Il y a deux frères, de toute façon, mais les rapports entre Rimbaud et ses deux sœurs sont très, très, très étroits et très, très constants. Et la Isabelle, c'est celle qui accompagne Rimbaud, alors que Rimbaud revient de son exil et qu'il est très malade. C'est elle qui l'accompagne dans la mort, jusque dans la mort, et qui l'écoute. Et qui non seulement l'écoute, mais l'entend comme peu l'ont entendu. c'est-à-dire qui, en effet, jusque dans son délire, perçoit que les illuminations restent présentes. C'est-à-dire qu'il n'a jamais oublié, c'est ce que lui-même, dont on ne parle plus depuis longtemps, il n'a jamais oublié les illuminations. Qui, comme vous savez, il n'a jamais publié lui-même, c'est pas lui qui l'a publié. Hein. Ça, les illuminations ont été d'abord confiées à Verlaine, pour être ensuite confiées à Germain Nouveau, qui, pour que Verlaine puisse les récupérer et soit finalement édité par un essayiste anarchiste.
Et alors, si Venise est le lieu et la formule, c'est que pour vous, c'est l'endroit où toutes les choses se remettent en place.
Oui.
Notamment tous vos livres.
Par exemple, oui. Mais vous savez, c'est une constatation que j'ai pu faire. Quand on a publié un certain nombre de livres, c'est extrêmement difficile de les avoir tous ensemble en mémoire. Très difficile. Et lorsqu'on les relit, on a souvent des surprises tout à fait étonnantes. Le plus souvent bonnes d'ailleurs. Mais le problème à Venise, c'est que comme je n'ai aucune autre activité, les livres sont tous présents à ce moment-là. Et en effet, je vis à l'intérieur d'une bibliothèque. L'appartement en question a cet avantage de posséder une excellente bibliothèque en anglais, en français et en allemand, et en italien bien sûr, et une excellente bibliothèque d'art, avec toute la peinture italienne. Une excellente discothèque qui va de l'origine jusqu'à Nono, jusqu'aux musiciens contemporains. Voilà, donc je vis au milieu d'une bibliothèque, je vis au milieu de la culture qui est la mienne depuis toujours et qui est un état de mon existence le plus important pour moi.
Mais ce n'est pas seulement les livres qui reprennent place à Venise, c'est plus essentiellement tout ce que vous avez vécu.
Oui. C'est-à-dire, Venise a aussi cette particularité. Comme c'est une ville où je marche beaucoup, surtout le soir, où la ville est quasiment déserte, il y a cette particularité, en effet, de faire lever le passé et de l'actualiser. Donc, à travers Venise, je vis, en effet, tout ce que j'ai pu vivre, je revis tout ce que j'ai pu vivre et je l'actualise d'une certaine façon. Ce qui est le propre de cette chronique vénitienne. C'est d'actualiser ce que j'ai vécu, ce que j'ai passé, ce qui s'est passé. Alors, il y a là des choses que je n'avais jamais publiées. Par exemple, comment j'ai vécu l'Exode, d'une certaine façon. Ma mère étant partie sur les routes... et m'ayant entraîné derrière elle. Et comment nous nous protégeons de l'aviation allemande et anglaise qui bombardent les routes à ce moment-là. Ce n'est pas dans le livre, je crois, mais comment, à un moment donné, ma mère vient me chercher et me tire par la main parce qu'il y a un soldat allemand qui m'offrait du chocolat. Or, c'était à l'époque tout à fait dangereux d'accepter de quoi que ce soit des soldats allemands.
Puis, de toute façon, c'est toujours dangereux d'accepter du chocolat.
Vous avez bien raison.
Ouais. Est-ce que Venise est une ville aussi où on peut écrire ?
Absolument, oui. D'ailleurs, j'ai écrit ce livre à Venise.
Oui,
j'ai écrit beaucoup de livres
livre,
à Venise.
Hein ? Mais écrire, pour moi, c'est écrire des poèmes.
Oui. Mais ils ne sont pas dans ce livre, mais j'écris beaucoup de poèmes à Venise, oui. Par exemple, j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « L'amour vénitien » qui est entièrement écrit à Venise, qui a été publié chez un petit éditeur qui s'appelait « Carte blanche », puis repris dans une édition plus ample qui s'appelait « Plaisir à la tempête », toujours chez le même éditeur, et qui doit faire quelques 150 ou 180 pages. Donc j'écris beaucoup de poèmes à Venise, oui.
Mais là, dans la chronique, vous dites que vous êtes en train d'y écrire. Alors, j'espère que c'est fait, que c'est écrit. Un poème dans lequel il y aurait de longues citations de votre bibliothèque, justement. Lautréamont, Homère, Pindare, Dante, Shakespeare, Hölderlin, Rimbaud.
Oui.
Et peut-être encore quelques autres.
C'est fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit publiable.
Ah.
Ça va être publié, ça ne va pas de soi. Pourquoi dans la mesure où les livres se vendent peu, l'éditeur fait la fine bouche avec ce dont il est sûr qu'il ne se vendrait pas. C'est pourquoi il y avait le mot roman sur la couverture d'ailleurs aussi. C'est-à-dire la poésie, comme vous savez, les éditeurs font la gueule devant la poésie, sauf une certaine poésie, surtout chez Gallimard, où vous pouvez lire tous les poètes d'une certaine façon, mais que c'était toujours un désastre, les poètes que vous pouvez lire. Donc ma poésie n'est pas bienvenue.
Bon. Ne sous-évaluons pas un aspect très important de Venise, c'est que c'est la ville des amants.
Oui.
Aussi,
oui.
Hein, puisqu'on parlait du corps tout à l'heure.
Oui, oui.
Le corps n'est pas seulement souffrant.
Absolument.
Il se déploie aussi, comme vous le dites, dans une éternité savante.
Oui. Il faut qu'elle devienne savante, vous savez, parce que l'un des problèmes du cancer de la prostate, c'est de rendre impuissant, apparemment. Donc l'impuissance physique devient une puissance mentale, érotique mentale supplémentaire, si je puis dire, et aide considérablement à l'écriture, d'une certaine façon. Parce que l'écriture est souvent troublée, en effet, par des effets secondaires dits sexuels. Donc tout est sexualisé au lieu que seulement une partie de l'humanité se trouve sexualisée.
Et heureusement, il reste la musique.
Eh oui.
Et l'érotisme peut être musical.
Absolument, il est surtout musical. Surtout à Venise.
C'est-à-dire érotisme de la lumière, de l'air.
L'érotisme de la lumière, de l'air et de l'environnement. Vous savez que Venise est quand même à cette particularité d'être une ville d'eau. Avec cette singularité tout à fait extraordinaire, c'est que le soleil tombant sur l'eau se projette sur les murs et que les murs ne sont jamais, comme en France, c'est-à-dire des obstacles. Ils sont toujours vivants, ils vivent. Avec une autre particularité, c'est qu'en effet, cette ville, qui est une ville d'eau, a des constructions en marbre. Donc c'est une ville de marbre sur de l'eau, ce qui est un paradoxe tout à fait... paradoxe que quelqu'un comme Palladio a magnifiquement traité.
Chronique vénitienne, Marcelin Plenet, que vous sous-titrez roman, c'est un livre de pensée et aussi, on peut dire, sur la pensée, qui est un des thèmes centraux qu'on rencontre. Trouver la forme convenable pour que la pensée ne soit confondue ni avec l'érudition, ni avec la rectitude scientifique, c'est un peu l'objet que vous posez dans ce livre.
Cet objet est très vénitien aussi, d'une certaine façon, parce que c'est une ville, en effet, qui je vous parlais tout à l'heure du problème de la ligne droite, c'est une ville qui est tout sauf cartésienne. Et en effet, à partir du moment où vous vivez dans cette ville, vous ne pouvez plus vivre avec la même perception cartésienne que vous avez dans toute autre ville.
Alors, il y a un penseur... qui revient dans le livre, à ma connaissance, c'était pas un habitué de Venise, c'est Heidegger.
Il y est passé, mais il n'a pas aimé du tout. Et je crois qu'il l'a visité dans de très mauvaises circonstances. En plus, il était marié avec une protestante. Donc il écrit un livre sur ce voyage qui est illustré par sa femme, avec des illustrations qui sont absolument terribles, et qui est dédié à la mère. Donc, à mon avis, il n'avait aucune possibilité d'aborder le baroque vénitien.
Mais ça ne vous déplaît pas quand Heidegger dit que penser reviendrait à remercier?
C'est très beau comme pensée. C'est en effet ce qu'on souhaiterait le plus souvent lorsque l'on vit, lorsqu'on déplace, que penser soit remercié. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que penser serait remercier la possibilité de penser. C'est-à-dire, au fond, ce serait, encore une fois, remercier Dieu.
Et c'est un peu ce qui se passe avec l'autre livre, le Cézanne, que vous publiez simultanément dans la collection Folio Essai. Alors, c'est un inédit, ce livre.
C'est en grande partie. La première partie a déjà été publiée par un de mes étudiants lors de l'exposition Cézanne à Aix-en-Provence. Qui avait publié ça sous une rubrique qui n'allait pas très bien ni avec le livre ni avec Cézanne, qui était les éditions des Mauvais Jours.
Mauvais Jours, c'est bien pour un éditeur.
Oui.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2006.
Oui.
Hein. Donc c'est le Cézanne marginal et les autres textes sont inédits.
La seconde partie est entièrement inédite. Alors c'est tout à fait... C'est aussi vénitien que possible. C'est-à-dire
et solercien, puisque ça s'appelle Cézanne et l'infini, la deuxième partie.
Non, pas du tout. Non. Ah si, il y a une partie qui s'appelle Cézanne et l'infini. Mais l'infini n'est pas le propre de Solaire. Vous savez, l'infini, c'est le propre du catholicisme. Or, Cézanne était catholique. Voilà. Alors, en effet, c'est solercien, c'est parce que Solaire, c'est très souvent cité dans le livre. Solaire, ça publie sur Cézanne un texte tout à fait important où il fait intervenir ce qui est un paradoxe Rimbaud. supposant qu'ils ont été parfaitement contemporains l'un et l'autre, ils ne se sont jamais rencontrés, bien entendu, mais ils auraient pu se rencontrer. Cézanne n'a pas lu Rimbaud, mais il a par contre lu un poète du 19e siècle qu'il admirait beaucoup, c'est Baudelaire, dont il savait les poèmes par cœur. Et c'est assez rare dans le 19e siècle d'un peintre sachant Baudelaire par cœur. Peut-être Monet. Et en plus, M. Cézanne avait une grande admiration pour Monet, qui est un grand artiste aussi. Solers a la coutume de dire, en art, il y a à la fois la chair et l'os. Monet, c'est la chair, Cézanne, c'est l'os. En effet, il y a une structure très forte chez Cézanne, presque une colonne vertébrale de sa peinture, qui fait qu'il aura ensuite une influence, à mon avis, erronée, sur une partie de l'art du XXe siècle, qui porte en effet sur une rationalisation de l'espace cézannien. Rationalisation en cume, en triangle, sur la peinture abstraite. Mais c'est un paradoxe parce que le peintre abstrait qui a le plus heureusement cité Cézanne, d'ailleurs, qui a fait un tableau qui s'appelle Hommage à Cézanne, c'est Rothko. Mais si vous cherchez Cézanne dans un tableau de Rothko, vous trouvez tout sauf bien entendu les baigneuses cézanniennes. Vous trouvez de l'espace, mais pas aucune figure. Donc c'est un peu un malentendu. Mais il y a deux autres artistes du XXe siècle qui ont une grande admiration pour Cézanne. C'est sur l'un d'eux, j'ai déjà écrit un livre sur lui, c'est Matisse, et l'autre c'est Picasso. Matisse disait « si Cézanne a raison, j'ai raison », lorsqu'il avait des doutes. Et en effet, il avait raison.
Alors donc, vous vous appuyez sur Solers,
oui.
Mais pas seulement. Il y a un autre auteur. Il y a Rilke, mais il y a encore un autre auteur que vous citez, c'est Guy Debord. Parce que l'introduction,
oui. Voilà, oui, oui.
Paul Cézanne et la Société du spectacle. Oui.
Ça tient au fait que lors de la dernière exposition Cézanne, il y avait une émission à la radio à laquelle participait Françoise Cachin, et que j'avais à ce moment-là été invité à faire une table ronde où se trouvait Françoise Cachin. Et je lui avais suggéré que, comme il y avait une queue tout à fait très, très, très importante à l'entrée de l'exposition, de mettre au-dessus de l'entrée l'arrêt réservé à un nombre extrêmement restreint d'individus. Et évidemment, ça ne lui a pas plu. Mais c'est une phrase de Cézanne.
Alors, vous faites de Cézanne, Marcelin Plenet, un contemporain méditerranéen de Nietzsche.
Oui, hein, ils sont absolument contemporains, oui.
Quand il écrit, par exemple, à Émile Bernard, « Je vous dois la vérité en peinture,
oui.
Et je vous la dirai.
Mm-hmm. » Voilà. Oui, ils sont. Mais vous savez, Cézanne vit à un moment donné où il y a un nombre important d'auteurs littéraires et philosophiques qui vivent en même temps que lui, à la même époque. Donc Nietzsche est pratiquement contemporain de Cézanne, oui.
Et il y a également Heidegger qui n'est pas très loin.
Heidegger qui avait une grande admiration pour Cézanne, comme vous savez. C'est-à-dire qui en effet avait une admiration tout à fait particulière pour la montagne Sainte-Victoire, qui allait méditer devant la montagne Sainte-Victoire lorsqu'il était invité par René Char dans ses conférences qui s'organisaient à ce moment-là en Provence. Donc voilà, forcément, il y a forcément Heidegger.
Alors donc, il y a ces deux livres, Chronique vénitienne et le Cézanne en folio. Mais il y a aussi un numéro qui vient de sortir, de la revue dont on a déjà cité le titre tout à l'heure, L'Infini,
oui.
La revue de Philippe Solers, dont vous êtes, inutile de le rappeler, très proche, et
oui.
Même dans la fabrication des numéros de cette revue. C'est le numéro 111 qui sort, c'est-à-dire le numéro de l'été, avec, entre autres, au sommaire, la suite de cette série que vous intitulez « Situation au
oui.
singulier », contrairement
oui.
à Jean-Paul Sartre,
oui, oui.
Marcelin Plenet.
« Situation oui. », c'est évidemment un clin d'œil à Debord, au situationniste. C'est-à-dire, c'est une façon de mettre les événements contemporains en situation. C'est-à-dire de les faire parler en les mettant en situation. Alors, les événements contemporains, c'est ce qui se passe en politique, en littérature, en art, en divers autres domaines.
Oui. Alors pour vous, c'est une espèce de chantier ouvert, un ciel ouvert.
Oui, oui, si on veut, oui. Je suis en train d'en rédiger une autre pour un prochain numéro. C'est un chantier où, en effet, entre ce qui me paraît significatif par rapport au cliché dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, par exemple, entre autres, les numéros de la grande presse quotidienne comme Le Monde ou de la grande presse hebdomadaire comme L'Observateur. Dans le dernier qui va paraître, je pense, à la rentrée, il y aura un grand morceau sur l'Observateur et sur les derniers numéros de l'Observateur, notamment sur ce numéro où l'Observateur déguise les écrivains en footballeurs, ce qui me semble un paradoxe insoutenable pour un écrivain.
Et là, dans ce numéro qui vient de sortir, vous insistez longuement sur la grande polémique qui a opposé Claude de Lanzmann et Yannick Hennel à propos de son roman Yann Karski.
Oui. En effet, c'est une polémique qui a fait beaucoup de bruit, qui a couvert toute la presse, auquel Hennel a cru devoir répondre à chaque fois, et Lanzmann n'a cessé de renchérir. Le gros problème, le gros reproche de Lanzmann sur Hennel, c'est qu'il l'aurait découvert tardivement et que Solers ne lui aurait jamais signalé. Or, j'ai vu la lettre que Solers lui a envoyée dès qu'il a reçu le manuscrit de Hélène, qui s'adresse à Lanzmann en lui disant parfaitement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il s'agit en effet d'un texte sur Jan Karski, qui est un résistant catholique polonais, que Hennel traite comme résistant catholique et que Lanzmann traite comme témoin de la Shoah. Or, la première partie de l'entretien de Lanzmann portait en effet sur la Shoah, où Karski portait le témoignage de ce qu'il avait vu, et la seconde partie portait en effet sur Karski aux États-Unis. C'est-à-dire Karski faisant état de son savoir aux États-Unis. Et là, Karski, devant les questions de Lanzmann, l'émission est passée à la télévision, devient très prudent et très, très diplomatique. Pour la bonne raison qu'il vit aux États-Unis, qu'il est dépendant des États-Unis et qu'il ne veut pas avoir d'ennuis avec les États-Unis et qu'en plus, à ce moment-là, la Pologne est aux mains des soviétiques et des communistes et que les États-Unis n'interviennent absolument pas sur ce point précis. Donc c'est le livre de Hennel met l'accent sur cet aspect particulier de Karski.
Il y a beaucoup d'autres sujets, bien sûr, dans cet épisode de situation du numéro d'été de l'Infini. Vous parlez du Saint-Suaire de Turin, par exemple, de Benoît XVI et la pédophilie, mais surtout de la revue elle-même, de la revue L'Infini, dont vous dites que certains n'ont toujours pas pris conscience que depuis 1984, elle a pour titre L'Infini, c'est-à-dire un titre aussi explicite que possible.
Oui. C'est bien clair, et même des proches n'ont pas pris conscience et continuent à... Je me souviens d'une visite de Bernard-Henri Lévy dans le bureau de l'Infini, annonçant à Solers, appelant Solers Monsieur tel quel. Donc le passage de tel quel à l'Infini a été un traumatisme considérable pour beaucoup de gens.
Nous avons parlé des deux nouveaux livres de Marcelin Plenet, Chronique vénitienne chez Gallimard dans la collection L'Infini, Cézanne en folio essai et du numéro 111 de la revue L'Infini qui vient de paraître. Du jour au lendemain, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir. Thank you.